D'abord, il y a eu Lilith, puis Martine et les autres.
3, 4.
Lilith, Martine
et les autres.
Lilith,
Martine
et les autres là.
On va manger.
Parce que j'ai la haine. Parce qu'à un moment, on doit prendre le micro.
Parce qu'on a envie d'être entre
meufs.
Parce que plein de femmes dans le monde font des trucs et qu'on n'en entend jamais parler.
Parce qu'on en a marre qu'on parle à notre place. Parce que j'ai envie de rigoler avec des copines.
Parce qu'on t'emmerde.
Parce qu'on veut apprendre ensemble.
Parce qu'on pourra se la péter en me disant
« Attends, je dois faire un montage son ce soir. »
Parce qu'on veut écouter de la musique faite par des nanas.
Parce qu'il y a déjà 823 émissions faites que par des mecs et que tout le monde trouve ça normal.
Parce que tu veux garder tes poils.
Je ne pas.
Parce que ça va en faire chier certains.
Parce que tu veux parler de toi.
Pour être forte et solidaire.
Pour s'échanger des idées, des savoirs, des pratiques et des stratégies.
Pour draguer.
Pour partager nos vies et nos envies.
Pour parler de la technique, de la plomberie,
la couture,
la politique,
la mécanique,
la cuisine.
Pour lutter.
Parce que tu veux garder tes bourrelets.
Ou pas, hein.
Parce que les mecs, ils te font chier dans la rue.
Parce qu'on parle jamais du clitoris.
Parce que je ne suis ni ta moitié, ni une demi-portion.
Parce qu'on dit que les règles, c'est sale et que tu pues de la chatte.
Parce que t'es trop ou pas assez.
Parce que tu manges le gras.
Parce que je ne veux plus me taire.
Pour qu'on puisse parler.
Parce que, tout simplement, nous voulons conquérir le monde.
Le monde ! Le monde !
Bonjour, donc vous êtes bien à l'émission féministe Lilith Martine et les autres sur Radio Canut 102.2. Alors, pendant cette heure, nous allons parler des femmes qui font du stop, donc un peu de nous qui faisons du stop pour nous déplacer en France ou pour voyager dans d'autres pays parce que on n'a pas assez d'argent pour aller voir nos potes ou pour plein de raisons. Donc en fait, pendant cette émission, on va vous raconter plein d'anecdotes, d'histoires croustillantes, et puis aussi vous analyser un peu d'un point de vue féministe ce qu'on vit pendant qu'on fait du stop. Parce que c'est un moment particulier où on nous renvoie qu'on est des meufs et qu'on se met en danger en faisant du stop. Souvent, les garçons nous disent « mais vous avez pas peur et vous n'avez pas des problèmes » et tout ça. Et donc là, on avait un peu envie de vous en parler, puis aussi ce qu'on nous répète tout le temps, qu'on est folle à faire du stop. Voilà. Donc on avait envie d'en parler, de l'analyser, d'en rire, de passer des coups de gueule là-dessus, puis de un peu essayer de voir si on n'avait pas trouvé des stratégies d'autodéfense en faisant du stop. Voilà. Donc pour l'instant, on va commencer avec un micro-trottoir qu'on a fait dans la rue de Lyon cette semaine. Alors en fait, on a interviewé 5-6 personnes, on les a choisies au hasard, c'est pas du tout scientifique, c'est pas du tout objectif, on a pris leurs paroles comme elles étaient, on a essayé d'en faire un petit montage et pour nous lancer un peu de bonne humeur et voir ce que les personnes pensaient du stop et si quand on rencontrait des femmes, si elles avaient fait du stop. Voilà, bonne écoute.
Stop.
Oh, il y a très longtemps, oui. Très longtemps.
Pour quelle raison vous faisiez du stop?
Parce que je voulais aller à un endroit et qu'il n'y avait pas de car ou voilà, quoi, c'est ça. Oui.
Et du coup, ça vous arrive de prendre des personnes
au
stop?
Ah non, plus maintenant. Non, ça suffit, non.
Et avant, oui.
Oui, oui.
Et vous preniez plutôt des hommes ou des femmes?
Des femmes, moi, je préférais, voilà, parce que j'étais plus tranquille comme ça, voilà. Stop, ça peut être dangereux, quoi. Même le conducteur peut être un type dégueulasse, quoi. Il peut emmener une petite dans un bois ou des trucs comme ça, j'en sais rien, mais c'est quand même aléatoire. Hein. Vous n'êtes pas maître de la conduite. C'est à faire avec modération, comme l'alcool.
Yeah! Woo-hoo! Woo-hoo!
D'accord. Est-ce que vous prenez des autostoppeurs ou des autostoppeuses?
Ouais, ça m'arrive. Ça me peut arriver depuis un moment, hein, mais ça m'arrive, ouais.
Ok. Et vous?
Il y en a de moins en moins, je trouve.
Mais vous les prenez, ces envoyés?
Ouais, ça dépend.
Les systématiquement, les autostoppeurs, je
suis sûr. Ça dépend. Les autostoppeuses, moi, je pense. Est-ce que je préfère les autostoppeuses? Non, je plaisante.
Prenez autostoppeuse, autostoppeur.
Ouais,
ça dépend.
Mais c'est vraiment très rare, enfin, franchement.
Est-ce que vous pensez que l'autostop, c'est un moyen de transport comme les autres?
Pas comme les autres, non. Mais c'est un moyen de transport. Oui, moi je trouve que c'est bien. Enfin, c'est. Oui, pas comme les autres, hein, mais c'est vrai que ça. C'est un peu particulier, mais. Je trouve que c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport. Hein.
Est-ce que vous voyez plus de filles ou de garçons faire du stop?
Moi, j'ai pas affiché la question, mais il me semble que c'est.
Non, je pense que maintenant les filles font moins de stop qu'avant, je pense. Hein.
Et pourquoi?
Je pense que c'est peur de faire du stop. Quoi. C'est plutôt des mecs qui font du stop, même plus âgés qu'avant. Quoi. Enfin, le stop, c'était un truc d'étudiant un peu avant. Et je trouve que maintenant, ceux qui se déplacent en stop sont plutôt des gens qui n'ont pas trop de thunes et qui peuvent être plus âgés. Voilà, c'est moins un truc fun d'étudiant. Quoi.
Vous prenez souvent, vous vous déplacez souvent en voiture?
En ville, non.
D'accord. Mais est-ce que vous prendriez des autostoppeurs si vous vous déplacez en voiture pour aller dans d'autres villes?
Ça dépend dans quel état. Quand on est en famille ou sinon, voilà, ça m'est arrivé de les faire, ça.
Ok. Et vous preniez plutôt des filles, plutôt des garçons?
Ça dépend. Il n'y a pas de différence. Après, ça dépend. C'est tout en feeling, en fait. Ça fonctionne comme ça pour les autostoppeurs. On appelle du stop nous aussi, alors on sait ce que c'est.
D'accord.
Généralement, les filles, ça n'a pas trop tendance à faire le stop. Hein.
Ah, vous avez moins de filles faire du stop que de garçons. Et pourquoi, à votre avis, il y a moins de filles qui font du stop?
Ah, c'est clair et net, parce que il y a plus de... Pourquoi? Parce qu'il y a plus de risques. Après, vous savez, sans finir les phrases et sans mettre les points sur les i, c'est clair. Généralement, les filles... En plus peur, et ce qui est tout à fait logique, puis dans le monde où on est maintenant, c'est un peu ça. C'est un peu macho, mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est la réalité.
Voilà. Et par exemple, si vous aviez, si vous avez des enfants, vous disiez, vous avez une fille?
Si, oui.
Et je vous dis, je vais partir en voyage avec une copine en stop, est-ce que vous diriez?
Non, je dirais non.
Non. Et pour un garçon?
Ben, malheureusement, je dirais oui, mais tout en une certaine réticence quand même de faire toujours attention. Après, on ne sait pas, c'est de la même façon, ça va dans les deux sens. De la même façon que vous pouvez prendre quelqu'un, après, on ne peut pas toujours être à l'abri de tout, sinon il n'y aura plus de contact entre êtres humains. Donc, je dirais, voilà, c'est ta vie, mais c'est vrai que quand même, par rapport à une fille, on a plus tendance à faire plus attention par rapport aux garçons, malheureusement. Il y a toujours cette différence quand même qui existe encore. Et c'est une réalité, hein, on n'a pas.
Ouais.
Voilà.
Ok.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Ouais, au revoir. Cette version machiste un peu, mais c'est la réalité malheureusement.
Parce que c'était tard, j'avais pas de voiture et je voulais rentrer chez moi rapidement.
D'accord. Et ça a toujours bien passé?
Eh bien, non. non.
Ouais, vous avez eu des soucis?
Des petits soucis, oui. C'est-à-dire qu'on peut trouver facilement, effectivement, un véhicule qui s'arrête, mais après... aujourd'hui, moi, j'en fais plus, mais je me dis qu'avec la société actuelle, où on a plus connaissance, je dirais, d'autres soucis que les agressions envers les femmes, je suppose qu'il peut aussi y avoir des agressions envers des jeunes hommes ou des événements auxquels on ne pensait peut-être pas.
D'accord. Vous pensez que c'est un moyen de transport dangereux quand même?
Franchement, je ne sais pas quoi vous répondre. Parce que si vraiment un jour j'avais besoin d'aller rapidement quelque part, peut-être que je referais du stop aussi.
D'accord.
En disant qu'il faut faire confiance à la nature.
Ok. Voilà.
Est-ce que vous voyagez souvent en voiture?
Non.
Non, un peu des fois.
Purement professionnel, oui. Personnel, non.
Et est-ce que ça vous arrive de prendre les personnes en stop?
Ouais, ça m'arrive, ouais.
Alors vous prenez plutôt des garçons, plutôt des filles, plutôt ça n'a pas d'importance.
Pas d'importance.
Pas d'importance.
Aucune.
D'accord.
Bah, après, il faut être, faut pas avoir peur de l'insécurité, faut pas avoir peur d'inconnu, faut pas avoir peur de la personne qu'on va, à qui on rend un service. Donc le covoiturage, ça existe, donc pourquoi pas prendre des auto-stoppers lorsqu'ils en ont besoin.
D'accord.
Sur des courtes distances.
Ok, sur des longues, non, peut-être pas.
Bah, sur des longues, si, c'est dans ma direction. Hein.
Ok.
Ok. Bah, merci beaucoup.
Merci.
Je vous en prie.
Au revoir.
Radio Canu, une émission locale. Est-ce que vous faites, vous avez fait du stop?
Dans ma vie?
Oui.
Oui.
D'accord. Quand ça? Quand vous étiez jeune?
J'étais jeune, oui, bien sûr. Je suis encore jeune.
D'accord.
Je triche.
Mais non.
Ouais.
Vous avez fait quand vous étiez plus jeune?
Oui.
Mais vous en faites plus maintenant?
Ah ben non.
Et pourquoi vous avez fait du stop?
C'était pour du dépannage. Quand on est tombé en panne et tout comme ça. Vraiment en cas d'extrême. Je n'avais pas fait de stop.
Ok.
Pas pour voyager? Non, non, non. Non, non.
D'accord. Et est-ce que maintenant vous prenez des autostoppeurs ou des autostoppeuses?
Non.
Non?
Je suis ma petite fille, maintenant on devient raisonnable. On devient un. Quand il n'y a que nous, c'est pas grave, mais quand on est deux.
D'accord. Mais quand des fois, si vous êtes toute seule, vous pouvez en prendre alors?
Toute seule, oui. Je pourrais, ouais.
Ok.
Ouais.
Et est-ce que vous préférez prendre des filles ou des garçons?
Oh, ce métier est égal. Non, pas de préférence. D'accord. C'est au feeling à un moment donné.
Ok.
Si on sent que c'est trop sale, on se dit oh là. Il va fumer dans ma voiture.
D'accord.
C'était tout?
Oui.
C'était tout? Merci beaucoup.
Parfait.
Bah de rien. Hein.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Non,
jamais de ma vie.
Du stop.
Moi oui, mais j'habite en Martinique en fait.
D'accord. On faisait un Martinique.
Oui, mais tous les jours.
Et maintenant que t'habites en métropole, t'en fais plus?
Non, jamais, non.
Pourquoi?
Pourquoi? Mais ça ne m'attire pas, premièrement, j'ai pas trop confiance non plus, j'avoue.
D'accord.
Moi, j'en ai besoin. Pourquoi avec les transports en commun, ça va?
Ok.
Et pourquoi en Martinique, quand on faisait, ça se passait bien?
Ben oui, et puis après, vu que je connais beaucoup de personnes, donc je faisais plutôt stop sur les gens que je connaissais, après... Ça allait vite fait, c'est tout près, j'allais pas non plus à la ville à côté. Voilà.
Et ici, pourquoi vous en feriez pas? Du coup, tu disais, j'ai pas trop confiance, pourquoi?
Je sais pas, ça m'a... franchement, ça m'attire pas, ça me fait plus... Non, franchement, sérieux. Ça m'attire rien de faire du stop ici. Après, on a déjà entendu combien de trucs, j'ai pas envie de me faire agresser, j'ai pas envie de me faire enlever non plus. Ça, voilà.
D'accord. Toi, tu penses un peu la même chose?
Non, j'ai jamais réellement besoin en fait, parce que je sors pas beaucoup.
Ok.
Si je sors, c'est en journée, donc je sais qu'elle est TCS.
D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des filles qui font du stop sur des grands trajets?
Ça craint. Moi, je sais que je préférerais marcher. Si je me retrouve dans cette situation, je préférerais marcher que
non,
de.
Je trouvais pas que c'est un déplacement comme le train, comme l'avion, comme non. Les autres.
Franchement, je préfère aller payer 50 euros, 60 euros pour notre train qu'aller faire du stop.
Et les garçons qui font du stop, vous en connaissez?
Non.
Moi, ici, non.
Et ça vous fait quel effet? Vous trouvez ça craint pareil ou...
Moi, si je ferais du stop, j'enverrai un message avec la plaque d'immatriculation. Et non, sincèrement, si j'en ferais à ma copine ou à ma soeur ou n'importe, j'enverrais le numéro de la plaque de matriculation, la marque de voiture.
D'accord.
Sincèrement, je ferais ça si vraiment j'aurais besoin. Comme ça, si mal quelque chose, on peut retrouver.
Okay. Est-ce que vous trouvez que des garçons qui font du stop, c'est pareil, c'est pas...
C'est moins choquant qu'une fille.
C'est,
de toute façon,
c'est déjà moins choquant qu'une fille, mais
le
risque, il est le même. Hein, tu peux... Le risque, il est le même. Hein.
Moins choquant.
C'est moins choquant. Quand tu entends, ouais, un mec fait du stop, ça t'a fait... Ouais, c'est le risque, moi je trouve qu'il est toujours là.
Mais pourquoi c'est moins choquant du coup si le risque il est pareil?
C'est
comme c'est ça en fait, voilà,
c'est dans toutes les situations, c'est les garçons que voilà, c'est comme ça.
Bon après, franchement, je dirais que moi, fille, garçon, non.
Vous êtes toujours sur Lilith, Martine et les autres sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et on va répondre déjà à une question. Il y a quelqu'un qui nous a appelé pendant qu'on passait les micro-trottoirs, donc on va lui répondre. Donc sa question c'était pourquoi parfois les filles elles se montrent pour faire du stop et en fait elles ont un copain avec elles qui se cache derrière.
C'était pas vraiment une question, mais il faisait une sorte d'affirmation, mais nous on peut
développer dessus du coup.
Et du coup, bah oui, c'est sûr que de toute façon, l'a priori des gens, c'est qu'une fille, elle va être moins dangereuse, il y a moins de risques de la prendre. Et vu que le but, c'est quand même de se faire prendre en stop et puis d'arriver à son but, et bah oui, c'est une des petites stratégies de se dire, bon, bah, je vais me mettre plus en avant. Du coup, après, hop, l'autre personne peut arriver et dire, bon, et c'est bon, on est deux. Et voilà, comme ça, ça permet d'engager.
Ben, moi, je dirais que c'est aussi peut-être le conducteur, il se sent un peu roulé parce que, en fait, au départ, la stratégie, ça veut dire quelque chose, quoi. Ça veut dire la fille, elle est plus, on la prend plus facilement en stop, et parce qu'elle fait moins peur, mais et parce qu'on a plus envie de prendre une fille quand on est un conducteur, peut-être. Voilà. Après, enfin oui, moi, ça m'est arrivé de faire ça. Enfin, c'était plutôt le gars avec qui j'étais qui faisait des petits tours un peu plus loin dans les buissons, l'air de rien. Et j'avais même pas vu qu'il était parti. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, ça s'arrête plus facilement, quoi.
Et bah, du coup, puisque t'as commencé un peu à parler de tes expériences, on va lancer la discussion. Donc en fait, on voulait que les personnes ici, elles se présentent et puis qu'elles racontent un peu des histoires de stop ou des histoires rigolotes ou moins rigolotes ou quoi. Et donc la première question, c'était pourquoi tu fais du stop ?
Alors, moi, j'ai fait du stop principalement pour à cause d'une question financière, quoi, parce que de plus en plus, j'ai beaucoup pris le train pendant longtemps, et en fait, le train, c'est de plus en plus cher, et puis j'ai dépassé 25 ans, je peux plus avoir la carte 12-25, et enfin, plein de choses comme ça qui font que... Et puis l'essence aussi, j'ai plus assez de sous pour payer de l'essence, avant j'avais une voiture, maintenant j'en ai plus... Voilà, et puis après c'est devenu, j'en refais pas depuis longtemps, mais après c'est devenu presque aussi une aventure. Enfin, j'aime bien ça en fait, c'est un peu un défi.
T'as envie de... Quelqu'un d'autre qui a envie de répondre à la même question ?
Bah moi c'est un peu pareil, c'est un peu genre... parce que j'ai pas de thunes, donc sinon bah, j'irai jamais sur Paris, ou j'irai jamais à Marseille, ou j'irai vraiment des villes où je pourrais quasiment pas y aller, il faudrait que je le choisisse et que... Et que je me prenne 6 mois à l'avance pour pouvoir me prendre un billet. Puis après, c'est l'aventure. Et par exemple, cette aventure-là avec une copine, on l'a faite. Et on a fait du stop pour aller jusqu'à Istanbul. Et là, c'était genre vraiment le voyage et l'aventure et les rencontres. Et se laisser aller au fil des hasards, des rencontres avec les gens. Et c'était quand même vraiment super, super chouette. Parce que pendant 3 jours comme ça, on a tracé jusqu'à Istanbul. On est parti depuis...
Turin
en Italie, et voilà, et c'était vraiment chouette. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce mot-là sur le truc de l'aventure et de la rencontre qui est quand même assez fun.
Bah, parce que même s'il y a une histoire d'argent, je sais pas, on commence comme ça, t'es jeune, t'es avec 3 potes, il y a un festival, il y a une rencontre, il y a quelque chose que t'as envie de faire, tu te lances, puis après t'y prends goût. Et que même des fois, quand t'as de l'argent et que tu pourrais te payer un billet, et bah, ça te donne envie, quoi. Ça devient vraiment un mode de voyage. Tu bouges et c'est, moi, je trouve ça vraiment agréable.
Ouais, et puis ça fonctionne surtout.
Ouais, ouais, ça marche.
Ça marche bien.
Mm-mm. Mais ça marche bien plus sur les grands trajets. Parce que par exemple, pour faire genre Lyon-Paris ou Lyon-Grenoble, tu te payes à un péage. Après, tu vas sur l'autoroute et puis sur les stations. Puis là, t'es que dans le flux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours plein de voitures qui passent. Mais maintenant, pour aller, j'ai l'impression, pour aller dans des villages ou pour aller plus dans la campagne, ou... là, ouais. C'est super galère.
Moi, je trouve que ça dépend. Peut-être plus des régions, des choses comme ça. Enfin, moi, j'ai vraiment remarqué qu'il y a des fois, puis de la saison. Enfin, je sais pas, il y a vraiment des trucs. Comme ça, en été, c'est toujours plus facile, ou selon vraiment la région, t'y arrives mieux. Mais moi, je sais qu'en tout cas, où j'étais avant, quand j'étais plus jeune, pour faire 20 bornes, 30 bornes, de passer d'un patelin à l'autre, ça le faisait aussi. Alors oui, il y a peut-être ce côté un peu, t'as plus d'arrêts, t'as plus d'étapes, alors que c'est vrai que sur les autoroutes, tu t'enchaînes les kilomètres. Mais je pense que ça marche.
Et du coup, en général, vous en faites quand même avec une personne ? Est-ce qu'en général, c'est une fille ? Est-ce que c'est un garçon ? Est-ce que vous en faites toute seule ? Ou ça dépend des situations ? Ça dépend des cas ?
Moi, j'ai fait tous les cas de figure. Et en fait, je mets vraiment une énorme différence dans comment je le vis et tout ça quand je suis toute seule. Et voilà. Mais sinon, j'ai fait tous les cas de figure. Et puis, la grosse différence... C'est juste que j'ai un peu plus la pression, c'est un peu plus un défi. Ouais, j'ai un peu plus peur, quoi.
Ok. Les autres ?
Oui, moi, c'est pareil. Hein. tous les seuls, avec un gars, avec une fille, même à trois. Moi, je trouve ce que, en tout cas, ce que ça change pour moi quand je suis toute seule, c'est il y a un enjeu qui est différent, en effet, parce que tu sais que si jamais il t'arrive une embrouille, bah t'es toute seule à devoir la gérer. Et en même temps, ça fait moi, c'est les rencontres qui m'ont permis de vraiment échanger hyper fortement avec les personnes. Bon, des fois, quand t'es à deux, t'y arrives aussi. Mais il y a un côté, des fois, quand t'es à deux, il y en a un qui est crevé, donc tu dors. Enfin, ça fait des choses un peu plus. Alors que quand t'es toute seule, moi, j'ai vraiment. Enfin, en tout cas, moi, mes moments marquants, j'ai vraiment l'impression de vraiment rencontre, c'est quand j'étais toute seule.
Moi aussi, pareil, tous les cas de figure. Mais en revenant là en voyage, là, comme on était tout le temps à deux, moi, quand je me suis retrouvée toute seule, c'était un truc vachement plus lourd. Et depuis un bout de temps, c'est vachement plus lourd de faire du stop toute seule. Et c'est vraiment un défi, genre de dire bon, allez, là, je vais me confronter aux personnes. Et puis en plus, quand t'es érémiste ou que t'as pas vraiment une vie sociale très définissable parce que t'as pas de métier, parce que t'as un certain âge et que les gens, ils n'arrivent pas à te mettre dans une case, des fois, t'es là. T'as plus envie de répondre aux questions, puis de toute façon t'as pas vraiment d'autres moyens pour voyager, parce que sinon tu pourrais pas aller à cette rencontre, tu pourrais pas partir de ta ville, et donc quand même tu veux le faire, mais des fois t'as pas trop l'énergie de te dire allez, je vais rencontrer la personne, puis je vais lui expliquer ma vie, pourquoi je suis au RMI, ou pourquoi je travaille pas en ce moment, pourquoi plein de trucs comme ça.
Mais c'est vrai que c'est hyper fatigant, en fait. Enfin, moi je me souviens, enfin, des fois où j'ai été toute seule, surtout, ça pompe l'énergie à fond, parce que on fait énormément d'efforts pour être là, pour rencontrer la personne, pour échanger, et puis je pense, enfin, moi en tout cas, je suis aux aguets de plein de choses aussi, et des choses positives et des choses négatives. Enfin, je suis aux aguets, ouais. Enfin, je suis, du coup, ça va. Je me souviens avoir été vachement vidée à la fin d'une journée de stop.
Bah moi, par exemple, j'ai jamais fait du stop toute seule. Je voulais dire ce que j'ai fait.
Oui, parce que du coup, ça,
on va y venir après, mais je pense que quand même, comme quoi la menace qui pèse sur nous, qui est ou exagérée ou pas, et c'est peut-être on en rediscutera plus tard, elle est quand même réelle dans ma tête, parce qu'en fait, moi, je fais pas de stop toute seule, parce que alors il y a plusieurs raisons, c'est que j'ai peur de m'ennuyer. En fait, tous les moments où on attend, en général, moi, quand on est deux, je trouve qu'on rigole bien. Quand je suis toute seule, eh ben, j'ai peur que, du coup, voilà, de m'ennuyer. Ou les moments où les gens, ils vous lâchent à des mauvais endroits. Ou du coup, faut être un peu stratégique. Moi, j'ai pas trop le sens de l'orientation. Du coup, je me dis, si je suis toute seule, je vais me paumer, des trucs comme ça. Mais c'est quand même un manque de confiance en soi, quelque part. Et après, j'en fais pas toute seule parce que je me dis plein de fois, bah, à deux, je me fais peut-être pas agresser parce qu'on est deux, quoi. Je me dis pas, moi, ça m'est déjà arrivé quand même beaucoup de fois de tomber sur des mecs où j'avais pas spécialement confiance en eux. Et genre, je me dis, bah, j'aurais été toute seule, ça se trouve, je me serais fait emmerder. Là, il a pas osé parce qu'on était deux et lui, il était tout seul. Du coup, ça m'arrive quand même de le penser comme ça, et je me rends compte que quand même, ça m'empêche de faire du stop toute seule. Donc, d'un côté, c'est grave, quoi. Un peu.
Moi, ce que je me suis rendu compte quand j'étais avec, je faisais du stop avec des potes, ce mec, et ben, que des fois, j'étais plus passive, genre, je lui disais plus, je me mettais vite à l'arrière avec mon sac à dos et j'étais là, oh, désolé, toi, t'es encore devant, juste, c'est-à-dire, vachement plus dans une situation passive, bon, allez, vas-y, continue-toi, les mecs, parle avec eux.
Et justement, peut-être, on peut enchaîner sur des anecdotes, si vous avez des anecdotes marquantes ou des phrases qu'on vous a dit qui vous ont. Qui représente bien ce que ça peut être le stop pour vous dans les côtés positifs et négatifs, je sais pas. Moi j'en ai une, je peux commencer.
Vas-y.
Alors, une fois je faisais du stop avec une personne qui est présente ici aussi, et en fait, du coup c'était un espèce de cadre un peu quarantenaire avec une grosse voiture là, les commerciaux là.
Les VRP.
Ouais voilà. Et donc on allait en Italie, donc on faisait un très long trajet aussi. Et en fait, il nous a pris en stop toutes les deux, puis il disait rien de particulier, il faisait plutôt le mec sympa et tout. Et donc en fait, ma copine qui est là aussi, elle est partie aux toilettes. Et donc là, il m'a dit ah bah c'est cool qu'elle soit partie aux toilettes, comme ça je vais pouvoir te draguer, elle sera pas jalouse. Donc voilà. Et en fait, je m'y attendais pas du tout, parce que vraiment, il avait pas du tout tenté l'approche drague au départ. Il était vraiment juste, il nous avait pris en stop, comme on peut penser que les commerciaux, ils sont souvent seuls dans leur voiture pendant des longs trajets. C'est vrai que il y en a souvent qui prennent des autostoppeurs et des autostoppeuses. Et du coup, j'étais super étonnée. Donc, j'ai fini le trajet quand même assez crispée. Et en plus, Anna, elle savait pas, en fait, qu'il m'avait dit ça. Donc, c'était un peu chiant, parce qu'elle, elle était toute contente. Et puis, elle discutait avec lui. Et moi, du coup, j'étais dégoûtée. Voilà.
Bah moi, la première fois que j'ai fait du stop, c'est parce que j'avais loupé mon car pour aller au lycée. Et le gars qui m'avait pris, c'était... Donc moi, je viens d'un petit village et il me connaissait. Il me fait « Mais t'es complètement folle de faire du stop !» Et nanana, et pendant tout le trajet, il m'avait engueulé. Moi, je lui avais dit juste « Oui, mais je pouvais pas retourner chez moi parce que sinon j'allais voir ma mère et elle allait m'engueuler. J'avais loupé le car et j'étais obligée de faire ça. » Et il me disait « Mais t'es folle, mais t'es une fille, mais ça va pas, et nanana. Mais je t'ai pris ce que je te connaissais, ce que je voulais te sauver. On sait jamais. » Et... Tu sais, genre, moi, j'ai un petit peu, mais genre, c'était vraiment ça. Genre, sinon, moi, si je te prenais, si ça allait être quelqu'un d'autre, ça allait être un fou, et comment t'allais faire, et tout ça. Voilà. Et après, ça m'a assez suivi qu'on me dise, mais t'es folle, et t'es on t'a... Et genre, mais ce sont des mecs qui te disent, mais t'as jamais eu de problème, puis je fais, bah, non, c'est des gens comme vous qui me prennent. Alors là, ils sentent un peu con.
Ben moi, l'anecdote la plus marquante, c'est quand même celle où je me suis quand même fait un peu agresser. Et du coup, j'avais 19 ans et je faisais du stop pour faire 10 bornes aussi. J'allais voir des potes au lycée, je venais juste d'avoir mon bac, bref. Et puis je me suis fait prendre en stop par un mec aussi, un VRP, enfin un mec sur la route qui travaillait dans une petite camionnette avec 3 places à l'avant. Et je me suis mise tout à droite, et donc il y avait un siège entre nous. Puis il avait sa main au milieu, sur le siège du milieu, qui peu à peu se rapprochait de moi. Et donc il y a un moment donné où j'ai dit, bah laissez-moi là, même si j'étais pas du tout arrivée, parce que je sentais mal le truc. Et du coup, le temps qu'il s'est arrêté, et le temps que moi j'ouvre la porte, je ramasse mes affaires, en fait il s'est jeté sur moi...
Ouais.
Et puis il a tenté de me toucher partout et tout. Puis voilà, moi j'ai réussi à trouver la sortie, à sortir. Je l'ai insulté, puis j'ai fermé la porte. Du coup, ouais, voilà, c'était mon anecdote marquante qui me poursuit un peu à chaque fois. Mais en fait, c'était il y a longtemps. Puis maintenant, j'ai quand même refait du stop tellement. Enfin, j'ai tellement de bonnes anecdotes aussi qui viennent se superposer à ça que. Je suis plus rassurée maintenant. Mmh. Voilà.
Et toi, notre ami?
Et ben moi, la dernière... Bon, c'est sûr qu'en général, les anecdotes marquantes, qu'on s'en souvient, c'est aussi... ça peut être en effet les bonnes, mais j'en ai vraiment beaucoup. Alors, je vais pas commencer à toutes les raconter. Mais c'est vrai que la dernière là, que j'ai le droit avec... avec notre ami, c'est... on va tranquillement dans un petit bled... pas très loin de Lyon, et puis on commence à faire du stop, et bon, il y a une voiture qui s'arrête un peu dans un parking au loin, et le mec avait plus ou moins fait un signe, alors je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, donc je suis quand même allée voir, et puis le gars, on arrive, il est dans sa voiture, puis il fait pas grand chose, alors je vais le voir, je fais, mais vous êtes arrêté pour nous ou pas? Il entrouvre sa porte, il répond pas grand chose, puis là il commence vraiment à me regarder de haut en bas. Donc je commence à me faire bon, alors encore un gros relou, donc avec Anne-Claire, on se dit bon bah tant pis, on y va, on part. Et en fait là il dit quelque chose et j'ai pas bien compris, donc je me rapproche et il avait vraiment une tête, bon très impressionnante, avec des yeux un peu vitreux, pervers, vraiment, c'était horrible.
Reste de serpent, les yeux ouverts comme ça, à être omnubilé par toi.
Et du coup, tout gêné, là, c'est ça qui m'a marqué, en fait. C'est qu'il était vraiment, en plus, dans un truc de gêne. Parce qu'il le murmurait, et puis un petit peu comme si c'était un petit garçon qui demandait quelque chose. En fait, c'est ça que ça m'a donné l'impression, c'est « si vous me faites un petit quelque chose ». Donc là, je lui ai plutôt dit, tu pars, sinon je te casse ta voiture. Parce que voilà, c'est... En effet, il y a... je pense que... Quand tu fais du stop, moi je considère que je suis assez chanceuse parce que ça fait quand même vachement longtemps que j'en fais et que oui, j'ai des petites choses comme ça où les mecs ils tentent et puis finalement juste tu sors de la voiture, t'es énervé pendant... T'as juste plus envie qu'un mec te prenne et t'es énervé et puis en même temps tu sais très bien qu'il y a tellement toutes les autres fois où ça a été génial et plein de découvertes que... Et bah voilà, je trouve ça important que de pas s'arrêter et parce que ça serait aussi... je trouve aussi les laisser gagner un peu aussi. Hein, ce truc de dire non, je vais pas me laisser, ils vont pas faire en sorte que j'ai peur, surtout ils vont pas m'empêcher de continuer à vouloir bouger, parce que c'est ça que je trouve.
Et puis aussi, je sais pas, on en parlait en préparant justement cette émission, moi il m'était arrivé une anecdote j'avais trouvé rigolote qui renverse complètement le truc, c'est que j'ai l'impression aussi le fait de draguer des filles que tu prends en stop, c'est un peu, certains mecs, c'est un peu comme s'ils devaient le faire, quoi. C'est même pas, des fois, il y a des mecs, c'est une espèce de rôle qu'ils jouent parce que c'est comme ça. Tu prends deux jeunes filles en stop, bon, bah, ce serait débile de pas les draguer, mais ils sont même pas si convaincus que ça. Moi, ça m'est arrivé une fois, un gars qui m'a pris avec une copine. Le premier truc, c'était, bon, on s'est dit, oulala, en plus c'est autoroute, donc la route, elle va durer longtemps avec lui. Premier truc qu'il nous dit, c'est, ah bah oui, deux belles filles comme vous, je vais pas vous laisser sur le bord, nanana. Et après, pendant 2 heures, on a discuté avec lui et pas un pet de drague de toute la conversation. Du coup, moi, j'avais l'impression que c'était aussi des fois les mecs qui se mettent dans un rôle comme ça, parce que t'es une fille, donc il faut quand même le faire. Et puis, bah, au final, quand juste c'est des individus qui se rencontrent, et bah, tu discutes de choses, et puis ça passe à la trappe, en fait. Selon aussi le comportement, je pense, que t'as en face, mais.
Ben, moi, ça me fait aussi penser qu'il y a des fois où j'ai été prise en stop par des gars qui se défendaient de me draguer, surtout, enfin, qui me montraient par tous les gestes, toute leur manière de me parler, que surtout je t'ai pas pris parce que t'es une fille et je t'ai pas pris pour te draguer aussi. Enfin, j'ai eu ça aussi. Mmh. Qui vraiment s'effaçait à fond et qui me parlait vraiment sur le truc. Ah, moi aussi j'ai fait du stop et voilà. Et qui me mettait pas dans un genre non plus. Et c'était drôle d'avoir ce rapport-là finalement.
Ouais, comme quoi c'est super présent du coup pour eux aussi.
Enfin, oui, ça veut dire. Oui, ça veut dire aussi que c'est super présent et qu'il y pensait. Enfin, je sentais qu'il y pensait à se défendre de ça.
Juste pour rebondir là-dessus, moi, une dernière anecdote, c'était dans notre voyage pour aller en Turquie, où il y a un Bosniaque qui nous a pris et qui, lui, nous a pas lâchés, qui nous a nourris, qui on était super fatigués, et au poste de douane, on en avait pour 3 heures, qui nous dit « Non, mais restez ici, dormez, franchement, mon camion, c'est votre camion, reposez-vous, ça va bien aller », et qu'après, qui a vraiment jusqu'au bout nous a posé un endroit, je me rappelle plus vraiment, mais genre, je me rappelle que c'était un bon endroit pour qu'on puisse continuer, et qu'il nous apprenait à... Le Bosniaque, il essaie de nous apprendre des chiffres ou tout ça, et genre, qui était vraiment une super belle rencontre. Et voilà, c'était pour enchaîner avec la musique qu'on va vous passer maintenant. Waouh, la transition!
Radio Canyon, Lilith Martinez. fait, j'ai pris au dépourvu mes copines, alors elles étaient toutes rouges. Je me suis dit, on reprend l'antenne. Voilà, c'était Désirless, une star du disco des années 80. Et regardez son clip, il vaut vraiment le coup.
Voyageons. Bon, on va aller sur quelque chose d'un peu moins rigolo. Donc, c'est un texte de Virginie Despentes qui est dans King Kong Theory. Juillet 86. J'ai 17 ans. On est deux filles en mini-jupe. Je porte des collants rayés et des converses basses rouges. On revient de Londres où on a dépensé en disques, teintures et divers accessoires cloutés tout l'argent qu'on avait en stock. Donc plus une thune pour le voyage retour. On galère pour rejoindre Calais en stop. Ça nous prend toute la journée. Puis pour payer le ferry en faisant la manche directement à côté des guichets. Quand on arrive à Calais, la nuit est déjà bien tombée. Pendant la traversée, on a cherché des gens en voiture qui nous rapprocheraient. Deux Italiens, plutôt beaux, qui fument de l'herbe, nous conduisent jusqu'aux portes de Paris. On se retrouve en pleine nuit à une station essence, quelque part sur le périphérique. On décide d'attendre que le jour se lève, et les routiers avec, pour trouver un camion qui irait direct sur Nancy. On traîne sur le parking, dans le magasin, il ne fait pas tellement froid. Voiture de trois Lascar, blanc, typique banlieusard de l'époque. Bière, pétard, il est question de Renaud, le chanteur. Comme ils sont trois, dans un premier temps, on refuse de monter avec eux. Ils se donnent la peine d'être vraiment sympas, faire des blagues et discuter. Ils nous convainquent que c'est trop bête d'attendre à l'ouest de Paris, alors qu'ils pourraient nous dropper à l'est, là où ce serait plus facile de trouver quelqu'un. Et on monte dans la voiture. Des deux filles, je suis celle qui a le plus bourlingué, la plus grande gueule, celle qui décide qu'on peut y aller. Au moment où les portières claquent, cependant, on sait déjà que c'est une connerie. Mais au lieu de hurler « On descend !» les quelques mètres où il est encore temps, on se dit chacune dans notre coin qu'il faut arrêter de paranoïer et de voir des violeurs partout. Ça fait plus d'une heure qu'on parle avec eux. Ils ont juste l'air de branleurs, amusants, vraiment pas agressifs. Cette proximité, depuis, parmi les choses indélébiles, corps d'homme dans un lieu clos où l'on est enfermé, avec eux, mais pas semblable à eux. Jamais semblable avec nos corps de femmes. Jamais en sécurité, jamais les mêmes qu'eux. Nous sommes du sexe de la peur, de l'humiliation, le sexe étranger. C'est sur cette exclusion de nos corps que se construisent les virilités, leur fameuse solidarité masculine. C'est dans ces moments qu'elles se nouent. Un pacte reposant sur notre infériorité. Leur rire de mec, entre eux, le rire du plus fort, en nombre. Alors, donc, c'était Virginie Despentes dans King Kong Theory. Alors, ça va nous permettre de... C'est un peu, on rigolait plus avant.
Oui. Mais en fait, on n'a pas choisi cet extrait de texte pour. Nous, on l'a choisi sciemment, en fait, pas pour parler du viol parce que c'est un autre sujet, mais pour vraiment parler du danger qu'il y a en faisant du stop et le truc qu'on nous rappelle tout le temps quand on fait du stop. Et je trouve qu'il commence au moment où on se met au bord de la route, quand on est toute seule, par exemple, qu'on peut être pris pour une prostituée, ou alors comme on est au bord de la route, et ben, les garçons nous se disent qu'ils peuvent tout, dire qu'on est libre en fait pour eux, que notre corps est à disposition, et sur tout ce qu'on nous rappelle du danger qu'on a entendu dans les micro-trottoirs. Donc nous, c'était vraiment plus de parler de ce danger-là, de pas le nier, de dire qu'on continue comme tu disais tout à l'heure et de l'analyser en fait.
Alors il y avait un des trucs qu'on s'était dit, c'était que il y a plein de gens là dans les micro-trottoirs, c'est revenu, qui disaient que en général on fait moins de stop et donc du coup les femmes elles font aussi moins de stop qu'avant. Et c'est vrai que moi j'entends plein d'histoires des années 70 où il y avait quand même des grands voyages en stop qui étaient entrepris. Alors je pense toujours plus par des hommes de toute façon, mais il y avait quand même aussi des femmes, et qu'effectivement là il y a moins d'auto-stoppeurs en général. Du coup on se demandait si aussi le fait que les faits divers ils soient ultra médiatisés tout le temps et qu'on en parle tout le temps. Donc c'est pas pour nier la réalité du viol, parce qu'on est bien d'accord que ça existe, le viol et l'agression sexuelle, mais c'est pour dire aussi que c'est une manière d'agiter l'épouvantail, de dire tu vas te faire violer si tu fais du stop. Regarde d'ailleurs la meuf dans le Pas-de-Calais qui a été violée il y a 3 mois, t'as pas vu dans les journaux, à la télé, etc. Et si cette médiatisation exacerbée, elle pousse pas aussi à les femmes à avoir plus peur.
Par exemple, en France, on entend les faits divers, il y a des qui sont augmentés, qui font tout pour nous faire peur et qui parlent pas d'autre chose, et on n'entend pas de riposte par exemple. Et je sais pas, t'avais une histoire à nous raconter par rapport à une histoire comme ça qui s'était passée en Turquie.
Du coup quand on est arrivé dans la partie est un peu de l'Europe, on a commencé, à chaque fois en tout cas qu'on nous prenait un peu en stop, on nous racontait l'histoire d'une artiste italienne dont j'ai complètement oublié le nom. Elle, c'était de voyager donc en stop en robe de mariée pour dénoncer un peu les violences faites aux femmes. Et au cours de son voyage, elle s'est fait assassiner. Et c'est vrai que, bon, c'est sûr, hein, quand on entend en permanence des gens parler de la peur, que les risques qu'on court, à un moment, ça nous pénètre. Enfin, moi, je sais que je suis pas perméable à ça, mais quand on entend sans cesse en parler, c'est vrai que c'est... Après, du coup, comme on en parlait, ce qui est bien, c'est de voir aussi ce que ça peut permettre comme... comment est-ce qu'on peut riposter à ça? Du coup, les femmes en Turquie avaient pas mal d'associations de femmes avaient travaillé et avaient fait des campagnes justement après les violences faites aux femmes et avaient donné à beaucoup de femmes des espèces de petites épingles qu'elles avaient accrochées et qu'elles pouvaient éventuellement piquer comme ça si jamais elles se faisaient agresser pour pouvoir faire fuir l'agresseur, quoi. Mais que c'est vraiment une réalité, ce truc que même si toi t'as pas peur, t'es convaincu, quelqu'un je sais pas, de ta famille, de tes amis, qu'on vous commence à dire mais t'es sûr que tu veux faire du stop, puis c'est la nuit, puis t'es toute seule, et puis quand même c'est loin, et puis la peur s'installe, et puis à un moment donné, même si ça fait je sais pas 10 ans que tu fais du stop, et cette fois-ci tu prends le train parce que ils t'ont tellement mis cette peur, alors oui, que ça soit les médias ou ton entourage, ils te l'incrustent. Et que ça, c'est vraiment, je trouve, dangereux parce que ça nous prive de notre corps, de notre liberté, de notre... Moi, je veux bien qu'il y ait conscience de ce risque qui est là. Mais si c'est juste pour faire que ça paralyse les corps, je préfère qu'il y ait autre chose qui se mette en place plutôt que ce discours alarmiste. Ouais. Pardon.
Moi, je me disais juste qu'il y a aussi la culpabilité qui pèse sur nous, c'est-à-dire on l'a un peu cherché en fait, si jamais, on fait du stop, parce que il y a ce truc-là d'être, d'être disponible, quoi, d'être un peu vulnérable et d'être disponible et du coup de se jeter dans la gueule du loup en sachant et alors que, enfin, parce que je réfléchissais et je me disais en fait, il y a tellement de nanas qui ont une histoire d'agression sexuelle à raconter. Autour de nous, on en connaît toutes. Soit on en fait partie, soit on en connaît. Et en fait, si tu fais les statistiques, tu te dis, il y en a une sur 10, c'est en stop, puis une autre, c'est en soirée, puis une autre, c'est chez elle, puis une autre, c'est dans la rue, puis une autre. Enfin, du coup, il n'y a pas que le stop, mais du coup, en stop, ça a comme une pression un peu plus forte parce qu'il y a ce truc de culpabilité où on peut moins se défendre, ou j'en sais rien, comme si. Bon, voilà, petite réflexion.
Et ouais, moi, du coup, c'est pour ça que j'aime bien la réflexion de Despentes là-dessus, c'est qu'elle raconte une histoire super trash, mais elle dit quand même, le but, est-ce que c'est du coup se laisser gagner par cette peur-là? C'est comme sortir le soir. Comme moi, je sais que même mes parents, souvent là-dessus, le fait que je sois une fille, je sais, ils m'ont jamais empêché de sortir le soir, mais il y avait quand même une inquiétude qui me transmettait, et moi, j'ai toujours des peurs, des fois complètement irrationnelles quand je marche la nuit toute seule. Mais tu sais, c'est toujours, est-ce que tu vas du coup pas sortir et rester chez toi? Parce que de toute façon, il pourra toujours t'arriver quelque chose et tu te laisses gagner par ça. Ou est-ce que justement, t'anticipes et puis si tu sais que t'as peur, tu prépares des stratégies pour répondre si jamais il t'arrive quelque chose? Je trouve que Virginie Despentes, c'est intéressant pour ça. C'est parce qu'elle part d'une histoire horrible et au lieu de dire, c'est horrible et puis de rester une victime, elle réagit par rapport à ça.
Mm-hmm. Moi, je trouve que le parallèle avec sortir le soir, il est assez juste. Parce que si on s'empêche de sortir le soir, on n'existe plus. Donc en fait, on continue, on continue à être à l'intérieur, à être dans les maisons et à plus pouvoir réagir en fait. Et le stop, c'est pareil, c'est dire je suis toujours là, même si je peux me mettre en, je veux pas me mettre en danger, mais même si je vais me confronter à des situations difficiles, je vais continuer et je vais aller dans ce sens-là. Et nous, on se demandait si on avait des fois des stratégies d'autodéfense, en fait. Si on se disait des choses quand on commençait à faire du stop, qu'est-ce qu'on mettait en place.
Et peut-être on peut s'écouter un petit morceau de musique avant de passer à ça.
Going to store, Bill Kelly, something supplies the name.
Vous êtes toujours sur Lilith, Martine et les autres sur Radio Canus en 2.2 et on parle du stop, des femmes en stop, de nos anecdotes, des plus drôles, plus marrantes et des stratégies d'autodéfense quand on fait du stop. Voilà.
Alors, ouais, on voulait parler des stratégies d'autodéfense parce que quand même, la plupart du temps qu'on se fait prendre en stop, c'est donc souvent par des hommes. Et donc, bah, il y a des, de leur côté, c'est souvent de la drague ou alors du paternalisme. Peut-être que vous pouvez développer.
Oui,
avec grand
en fait,
plaisir.
J'avais envie de rajouter que de mes expériences, en tout cas, toute seule, où je me suis plus souvent fait prendre par des hommes. Même les trois quarts, je dirais, et que souvent en fait c'est des hommes qui sont vraiment bienveillants et c'est quasiment donc à une exception près toujours bien passé et on se disait que souvent aussi ils nous sont là pour nous protéger quoi un petit peu s'ils nous prennent c'est aussi parce qu'ils ont vu une fille donc qui est un peu démunie comme ça et que elle est à la merci de tous les
les psychopathes
et que du coup ils vont s'ils nous prennent heureusement qu'eux ils sont là pour nous prendre et tout ça et voilà et c'est bienveillant et moi en général enfin en fait ça me met pas trop en colère en fait ça m'énerve pas trop parce que je suis quand même mieux avec quelqu'un comme ça quoi mais en même temps c'est toujours le même système quoi c'est celui où on est un peu à la merci et forcément on n'a pas d'autre choix que de jouer la pauvre fille quoi
faible
ouais.
Mais du coup c'est vrai que ça permet aussi des fois de pouvoir renverser cette image que de toute façon une fille qui a besoin d'aide il faut forcément que ce soit un garçon qui vienne l'aider et puis bon
ouais et puis moi le nombre de fois enfin j'ai l'impression que quasiment chaque personne chaque homme qui m'a pris il y a toujours eu un moment où il m'a dit t'as pas eu peur, je t'ai pas fait peur, t'inquiète pas, je suis pas méchant, j'ai l'air comme ça, méchant, mais non, en fait, en plaisantant, hein, ah, j'ai l'air méchant, mais en fait, je suis gentil, enfin bon. Et voilà, il y a toujours un moment où il me rappelle que je suis vulnérable, quoi.
Et voilà, et du coup, ce qui est rigolo, c'est que par rapport à l'autodéfense, là, pour revenir dessus, c'est qu'autant dans la rue, quand quelqu'un vient nous parler, dans la mesure où, là, cette personne, on lui doit absolument rien et qu'on doit pas passer du temps avec elle, et bah, n'importe quel truc qui nous saoule, et ben on peut bien l'envoyer chier, même si c'est quelqu'un qui, lui, a l'impression d'être bienveillant. Mais par contre, en stop, c'est intéressant parce que du coup, c'est quand même quelqu'un qui nous rend un service. Donc, par exemple, les trucs assez paternalistes de « bon, bah heureusement que tu tombes sur moi parce que moi, je suis gentil, moi, je vais pas te faire de mal » ou de protection comme ça, bah il faut un peu jouer le jeu, quoi. Donc, faut voir... Enfin, je sais pas, après, c'est à chacune de voir ce qui l'énerve, ce qui l'énerve pas, mais dans l'autodéfense, ça va pas être sur les... J'ai l'impression que c'est pas sur les mêmes types d'agressions, c'est quand l'agression, elle dépasse quand même un certain niveau qu'on est obligé de se défendre en fait. Donc je sais pas si vous avez envie d'en parler parce qu'après on peut discuter bah la personne qui te drague moi je sais que dans le stop la personne qui me drague je vais plutôt réagir avec de l'humour puisque je sais que je vais devoir passer du temps avec elle donc je vais essayer de déjouer le processus de drague en faisant des blagues ou en renversant ou en parlant d'autres choses par exemple. Je sais pas vous.
Bah moi des fois si ça peut être genre d'être vraiment pas sympa. Mais vraiment de commencer de pas jouer un rôle sympa en fait pour pas laisser ce truc que moi je suis disponible, je suis drôle, je suis douce, je suis gentille et je vais être plutôt sèche au début. Puis quand ça a commencé à se détendre et qu'en genre en lui parlant et en racontant genre en menant la situation en fait, pas en laissant lui prendre la place, ben ça là après ça peut se détendre et moi aussi je peux me détendre mais c'est vrai que des fois genre vraiment super trop pas sympa et à pas dire tout à fait ma vraie vie et tout ça parce que j'ai besoin de cette protection là parce que ouais est-ce que c'est un temps court déterminé où j'ai pas envie que la personne elle me soit trop envahissante et des fois quand les personnes sont trop envahissantes bah je pose vraiment super vite les limites quoi là, j'essaye.
Moi, j'arrive pas trop à savoir comment je réagis parce que des fois, ça me glace, ça me rend très froide, et puis des fois, ça peut me faire. Si je sens que il est quand même assez détendu, et ben du coup, je peux aussi rigoler. et encore d'autres fois, j'ai l'impression que je m'en sors en étant sérieuse, mais sans essayer de pas me taire, pas devenir mutique ou carrément un glaçon, mais en essayant de parler sérieusement d'autres choses, de juste détourner la conversation sur parler d'autres choses Et voilà, et souvent aussi, ça, ça prend aussi parce que les gens qui prennent en stop, c'est qu'eux aussi, ils ont envie de parler. Donc c'est un peu sur cette corde-là que j'ai l'impression que je tire souvent.
Ouais, moi, c'est vrai que ça dépend des personnes. Alors, soit je vais faire ce qui a été dit, c'est soit je vais plutôt essayer de le faire à la rigolade, mais je pense toujours en essayant quand même de, à un moment donné, analyser les mécanismes qui poussent à draguer une fille, toujours les mécanismes qui poussent à, si je suis en conversation avec une fille, il faut au moins que je lui dise qu'elle est belle ou qu'elle est attirante, machin truc. Donc, c'est vrai que c'est d'essayer de venir en disant, mais pourquoi est-ce que tu me sors ça, en fait, parce que je suis aussi une personne, et puis ça serait un mec, puis comment est-ce que tu te serais arrêté? Et puis autrement, ou des fois en étant bien plus sèche ou sévère, ou je crois que ça m'est déjà arrivé aussi, les petits trucs de dire ah non, mais j'ai un copain, ou non, je suis lesbienne. Enfin, un peu des trucs comme ça pour dire, c'est un peu des trucs qui posent, où je me dis, bon, peut-être s'il y a ça, ça lui posera au moins la limite de ah bah mince, elle a quelqu'un, alors je peux pas.
Ça marche ou ça marche pas.
Oui, voilà, ça, il y a vraiment, je trouve, beaucoup, beaucoup de situations avec elle différentes.
Petite anecdote marrante, c'est que j'ai été prise en stop par deux gars, la cinquantaine, qui avait un peu bourlingué, qui était routier en fait, mais qui était en voiture. Enfin, je vais pas raconter toute l'histoire, c'était un peu compliqué, mais en tout cas, ils étaient tous les deux là. Il y en avait un qui me draguait et l'autre qui me protégeait. J'étais derrière et il y en avait un qui me dit, et juste pour raconter, il s'est retourné vers moi, il m'a dit, et alors c'est quoi ton petit nom, comme ça. Alors je lui ai répondu, et puis l'autre il m'a dit, moi on m'aurait demandé ça, je lui aurais dit, qu'est-ce que ça peut te foutre. Et à chaque fois que celui qui me draguait me draguait, me disait, eh bien mignonne, mais t'es bien mignonne et tout ça, l'autre il disait, oh là là, mais comment tu lui parles, tout ça. C'est drôle parce que finalement j'avais plus rien à dire.
Tu pouvais dormir, quoi.
On va faire une conclusion là-dessus.
Moi, juste en fait, je voulais quand même renvoyer à... Je voulais renvoyer à l'association Autodéfense et Autonomie, parce que là, on a parlé de petits processus quand on se fait draguer ou quand la situation n'est pas grave, mais il y a aussi vraiment plein de choses à savoir quand ça devient grave, quand on se fait agresser, quand on commence à se faire toucher, etc. Donc, c'est une association qui existe depuis quelques années, qui s'appelle Autodéfense et Autonomie, et vous pouvez, pour avoir plus d'informations...
C'est contactfemdouchi@yahoo.fr.
Alors, paye ton écriture.
Excusez-moi. Hein, c'est... Non, ou sinon il y a autodéfense. Attendez, autodéfense des femmes @gmail.com. Autodéfense des femmes, c'est tout attaché avec des S. Voilà.
Et bon, je sais pas, peut-être ça va être, mais je trouve qu'il y a quand même, quand on part en stop et qu'on n'est pas forcément super rassuré ou qu'on est toute seule, je trouve qu'il y a quand même des petites techniques comme genre avoir une gazeuse dans son sac ou avoir un couteau, avoir repéré un petit peu les villes qu'il y avait entre les deux points où tu voulais arriver, comme ça quand tu demandes à la personne où est-ce que la personne va, tu vois si c'est complètement ridicule le lieu qu'elle t'indique, et du coup vaut mieux pas que tu montes dans la voiture pour pas que tu te retrouves à ces emplacements galères où on t'a bifurqué, t'es plus sur la bonne route. Donc c'est vrai que c'est bien de préparer, bon, sans se prendre la tête forcément trop, mais de penser à que les stations-service, c'est quand même simple parce qu'il y a toujours du monde, il y a de la lumière, éventuellement tu peux te prendre un petit café. Donc voilà, des petites techniques comme ça pour pas se retrouver en plan galère.
Et moi j'ai aussi un petit conseil, c'est que il y a le truc de quand il y a une voiture qui s'arrête et qu'on sent pas la personne. Moi ça me faisait vraiment flipper de me dire, ah, si je vois la personne et que j'ai tout de suite là comme ça, j'ai pas envie de monter dedans. Comment faire, parce que la personne elle s'arrête, elle est sympa, elle veut voilà, elle veut rendre un service. Comment faire pour comme ça en très peu de secondes dire non, et j'avais peur de pas pouvoir refuser en fait. Et quand j'imaginais, et en fait ça m'est arrivé, et en fait non. Ça se passe très bien, on peut très bien refuser. La personne, en général, elle fait un peu la gueule, puis elle part. Mais en fait, voilà, c'est hyper facile et c'est comme ça que... Enfin, ça me rassure, quoi. Ça m'a rassuré de pouvoir le faire.
Et puis, il y a un autre cas à se rappeler aussi, si jamais on est déjà dans la voiture, en fait, de se rappeler, enfin, c'est justement dans les stratégies d'autodéfense que la personne, elle conduit. Et donc, du coup, elle a quand même un handicap, c'est qu'elle... Quoi, elle est obligée de conduire, menacer, donc c'est sûr qu'il faut se dire qu'on a quand même un avantage sur elle, même parce qu'au début, quand on part avec, je sais pas, un mec qui fait trois têtes de plus que nous, ou même pas d'ailleurs, mais un mec, comme on a cette représentation, on va se dire qu'on peut pas se défendre. Et en fait, bah, de se dire qu'elle a les deux mains prises par le volant et les pieds prises par les pédales, bah, ça fait déjà beaucoup de points d'attaque.
Oui, et puis mais bon, on a quand même ce merveilleux petit outil technologique. Bon, je vais pas non plus en vanter ses mérites, qui est le téléphone, et que pour celles et ceux même qui en ont, et bah c'est vrai que comme ça peut être aussi un petit outil de tu sors ton téléphone, puis tu commences à appeler, puis tu commences à, je sais pas, dire où t'es, ou très bien lui dire bah là t'arrêtes, sinon enfin
comme disait la meuf dans le micro-trottoir.
Ouais.
J'enverrai un texto avec la plaque.
Moi, ça m'est déjà arrivé. Du coup, de me sentir un peu obligée, parce que j'étais pressée par le temps, de monter dans une voiture où j'avais relevé la plaque, et que s'il y avait un souci, je me disais, je vais décrire la voiture, je vais décrire où je suis, et parce que voilà, des fois on se fait peur, hein, c'est sûr, mais que si on peut trouver des petites stratégies pour se dire si vraiment là ça merde, et ben j'ai ça, c'est bien.
Puis de penser très fort qu'on est les plus fortes, qu'on fait super peur et se transformer en monstre. On fait une conclusion là-dessus ? Parce que moi, il y avait juste deux trucs dans les micro-trottoirs. Les gens disaient que le monde, la société quand même dans laquelle on vivait, elle était quand même vraiment super dure. Alors qu'ils comprenaient pourquoi les femmes, elles faisaient pas du stop, ou pourquoi les femmes ne prenaient pas des personnes en stop. Mais quand même, ils disaient, mais malgré tout, si j'avais besoin de faire du stop, ou malgré tout, si ça se passait, ben, faut quand même faire confiance aux gens. Et je trouvais ça bien à relever que même s'ils disaient que le monde, il est horrible et trash et qu'on vit dans le pire des mondes et que bientôt c'est 2012, non, je rigole, ben, quand même, faut se faire confiance. C'est faire confiance aux gens et que nous, je trouve, de faire l'expérience de faire du stop et de faire même pour aller jusqu'au Moyen-Orient ou ailleurs ou tout ça, ben, je trouve qu'on est des hulks et qu'on renverse les rapports de gens et qu'ils valent le coup qu'on n'ait pas peur et que même si on a peur, et ben, on la connaisse, notre peur, et qu'on l'affronte et qu'on sache quoi en faire en fait. Et les trucs de stratégie, je trouve, c'est vraiment se dire bon, j'ai peur dans des situations, je sais pas comment faire, mais juste au lieu de qu'elle me prenne mon corps et qu'elle me paralyse, et ben je vais l'analyser, je vais la prendre en compte, et avec cette peur là, et ben je vais créer quelque chose.
Voilà. Je peux faire une conclusion semi-blague.
Ouais.
Que moi je trouve le stop, c'est trop un bon moyen de faire de la propagande, parce que moi les meilleures discussions politiques sur le genre ou le capitalisme ou est-ce que c'est de la faute des étrangers si on est en crise ou des trucs comme ça, et ben je les ai eues en faisant du stop, et quand même j'ai réussi des fois à convaincre des gens de trucs dont je pensais pas, parce que t'es obligé de discuter pendant 3 heures et du coup c'est trop bien quoi.
Moi j'ai dit que je suis une écolo et je suis pour le développement durable. C'est tendance.
Social traître.
Bon, on a juste deux choses à annoncer, bah trois choses en fait. Il y a une dame qui nous a appelé pendant l'émission, car on a essayé de se comprendre entre une chanson, et apparemment en fait elle a subi des violences conjugales, et elle passe le 20 avril en procès, et il y a des femmes de toute la France qui vont venir la soutenir au tribunal. Donc voilà.
Le tribunal, elle passe en procès.
Bah, en fait, elle m'a dit qu'elle avait subi des violences conjugales de la part de son mari et sur son enfant, qu'elle, elle allait en prison pour avoir défendu son enfant, et que là, peut-être qu'il va y avoir un non-lieu pendant le procès face à son mari. Donc elle appelait en soutien des féministes, qu'elle, elle nous avait déjà contacté, et que là, il y allait avoir plein de femmes qui allaient venir la soutenir de France. Voilà.
Redis la date.
Le 20 avril, à 14h. Oh. Après. Au tribunal grande instance, là, je crois.
À côté de la place Guichard.
Ouais, mais il faut chercher sur internet, voilà, ces infos qu'elle nous a données. Et après, on fait l'annonce d'un concert le 23 avril, la semaine prochaine, en soutien à une asso lesbienne, homosexuelle, transsexuelle d'Izmir, qui va se faire en Turquie, qui va se faire fermer, à un groupe anti-militariste et aux Kurdes de l'Europe. Voilà, c'est au centre culturel Mésopotamie, donc c'est un centre culturel des Kurdes, dans le 7e à la Guillotière.
Rue
Mazagran, et vous pouvez avoir des informations sur Rébellion. Et le 30 avril, dans un squat lyonnais qui s'appelle Les Mères Sévères, il va y avoir une fête en non-mixité femmes trans gouine, en soutien à justement l'assaut d'autodéfense féministe et autonomie de Lyon. C'est le 30 avril, voilà.
À 16h.
À partir de 16h, de 17 à 18h, il y a une écoute collective de l'émission Lilith, Martine et les autres. Et après, il y a une fête, une bouffe, une rencontre, tout ça. Et bah, contactez toujours autodéfense des femmes @gmail.com pour avoir plus d'informations sur cette soirée. Voilà. Et après, ben, moi, je vais faire une dédicace à Leïla, qui est une femme qui vit dans la rue, que j'ai rencontrée en revenant de Stop, justement, et avec qui j'ai passé beaucoup de temps, une fin de soirée, et qui était vraiment très, très chouette. Et je lui dis, vas-y, je te fais une dédicace à la radio. Alors, si elle m'écoute, et ben, cette chanson, elle est pour elle. Voilà. Et voilà, c'était Lilith, Martine et les autres sur Radio Canu 102.2 FM. Et puis, la semaine prochaine, c'est On n'est pas des cadeaux, émission Transpédéguine, la même heure, en alternance. Et puis, dans 15 jours, ça sera de nouveau nous.
Bisous.
Salut.
Salut.
finished it. Shimmering cheeklets of children. Having to murder, I lost to the street. Our skinny jungle child, my garden windy. Shivering and pretty, I visit the graves of boys dead at war. Shipwreck sailors, don't ask, don't tell, sweet fragrance of moon that brought me to your room, where you walk milky magic from that ancient loom.
Écoutez toujours, ça c'était Coco Rosie de l'album Coconuts, et avant on avait écouté Dog Fessarman. Voilà, à bientôt, ciao.